Le journal de Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Un rare recul en Russie à la une ce soir. Le journaliste Ivan Golunov sera libéré dans les prochaines heures et les accusations de trafic de drogue sont abandonnées. Pourquoi un tel retournement? Le site qui emploie le reporter spécialiste de la corruption des élites va enquêter et nous sommes à Moscou dès le début du journal. Tout l'hôpital public dans la rue aux côtés des urgences pour des embauches et une prime. Nous suivons le cortège parisien reçu chez Agnès Buzyn. Au sommaire également ce soir, les sénateurs qui reviennent sur l'allongement des délais de l'IVG. Le groupe d'extrême droite L'Oiseau Noir démantelé, 5 personnes mises en examen. Les Bleus de Didier Deschamps en Andorre avant les vacances éliminatoires de l'Euro. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien on parle immobilier ce soir. Encore une fois, on frise des taux records à peine plus haut que 1% pour emprunter. Super, mais qui peut encore acheter en ville? À Paris notamment, le mètre carré frôle les 10 000 euros partout. Acheter donc à petit taux, oui, mais à quel prix? Où surtout? Et quel profil pour le futur acheteur? Est-ce que vous avez le bon? 01 45 24 7000.
France Inter. A-t-on déjà vu pareil revirement dans la Russie de Vladimir Poutine? Le journaliste Ivan Golunov devrait donc être libéré d'ici à la fin de la journée et les poursuites contre lui sont d'ores et déjà abandonnées. Le journaliste d'investigation qui enquête sur les questions de corruption a été arrêté vendredi, placé en résidence surveillée. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Sébastien.
Il était soupçonné de trafic de drogue, mais la police annule tout, Claude, sous la pression de la société civile.
Absolument, les 180 000 signataires d'une pétition donc qui symbolise cette société civile et demandait la libération d'Ivan Golunov, mais aussi l'union étonnante des journalistes vedettes des grands médias fédéraux avec la presse indépendante. Tout cela a joué un rôle capital dans la relaxe du journaliste d'investigation. Mais depuis Grozny en Tchétchénie, où il vient d'obtenir la libération d'Olioub Titiev, son représentant régional, défenseur de la cause homosexuelle, arrêté et accusé exactement dans les mêmes conditions que Ivan Golunov, le responsable de l'organisation mémoriale de défense des droits de l'homme en Russie, Alexander Cherkassov, est convaincu, lui, que si le pouvoir central a lâché du lest, c'est aussi parce que ses intérêts n'étaient pas directement touchés.
Si ce n'est pas l'intérêt du pouvoir suprême, si la protestation est locale, si quelque sujet devient dangereux, si les gens montrent qu'ils peuvent se mobiliser, si les gens montrent qu'ils peuvent protester, la machine de répression, les autorités ont peur des faits de domino.
Et Alexander Cherkassov, sans minimiser donc l'impact de la mobilisation pour le journaliste d'investigation, symbole d'une presse indépendante encore très active en Russie, rappelle que des cas plus graves encore, comme celui d'Oleg Sentsov, le réalisateur ukrainien, n'ont pas trouvé aujourd'hui de dénouement aussi positif, alors même, Sébastien, que la mobilisation est internationale.
Oui, le pouvoir a entendu la société, dit son employeur ce soir, le site indépendant Medusa, installé en Lettonie. Merci Claude. RSF salue une mobilisation historique de la société civile. L'opposant Alexei Navalny parle, lui, d'un exemple de ce que la solidarité peut accomplir. Et puis l'Union européenne, d'une issue positive, même si Bruxelles déplore toujours les entraves à la liberté de la presse en Russie.
Des brancards saturés, des locaux inadaptés, des délais rallongés.
6 heures pour voir un médecin, 10 pour un spécialiste. Les urgences sont à bout et les soignants sont venus le dire une nouvelle fois dans la rue et devant les fenêtres d'Agnès Buzyn, près de 3 mois après le début de leur mouvement. Cette fois avec l'ensemble des personnels hospitaliers à l'appel des syndicats. Bonsoir Adrien Toffolet.
Bonsoir.
Ils ont été reçus donc au ministère de la Santé qui leur confirme des annonces dans les prochains jours mais qui ne seront pas satisfaisantes.
Effectivement, rendez-vous infructueux, rendez-vous décevant, ce sont les mots prononcés par des membres de la délégation qui, ce n'est pas une première, n'ont pas été reçus par la ministre mais par un membre de son cabinet. Alors quelles annonces sur la prime de risque de 100 euros promise aux urgentistes par Agnès Buzyn mercredi dernier? Une légère avancée semble avoir été consentie. Emilio Alvarez est infirmier et membre du collectif Interurgence.
Il a laissé entendre que la prime qui nous avait été annoncée la semaine dernière allait être revue à la hausse. On ne sait pas de combien, on ne sait pas pour qui. Ça serait pour le personnel des urgences, mais en soi, on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir.
Une seule certitude, elle ne sera pas de 300 euros comme demandé par les grévistes. Rien de plus, rien sur les effectifs insuffisants, mais rien non plus sur les revendications plus larges des syndicats hospitaliers. C'était leur rendez-vous aujourd'hui, éclipsé par le mouvement des urgentistes. Alors à la sortie du ministère, un constat s'est imposé aux syndicats. Infirmières, aides-soignantes, par leur mobilisation depuis 3 mois, font bouger les lignes, reconnaît Olivier Youinou de Sud Santé. Il faut donc s'en inspirer.
C'est eux qui nous montrent la voie. On va s'appuyer sur ce que sont en train de faire l'ensemble de nos services d'urgence dans l'ensemble de nos établissements. Parce que là, ça s'étend. On va s'appuyer sur leur expérience et se dire que l'on partage la plupart des revendications qu'ils peuvent porter. En tout cas, des lits pour qu'on puisse coucher nos patients correctement, des effectifs pour qu'on continue de les prendre en charge et pour avoir ces effectifs de manière pérenne, une révision de nos salaires.
L'élargissement futur de la mobilisation des personnels hospitaliers, c'est donc la seule certitude des manifestants ce soir.
Voilà pour la crise des urgences dans les hôpitaux publics. Merci Adrien Toffolet. Alors que le Sénat adopte le projet de loi santé, qui prévoit notamment la fin du numerus clausus pour lutter contre le manque de médecins, les sénateurs s'étaient aussi prononcés pour l'allongement de 2 semaines des délais de l'IVG. C'était vendredi. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
Mais ils ont revoté aujourd'hui avec l'accord du gouvernement et ils font marche arrière.
À la droite sénatoriale, mise en minorité vendredi, avait fait la demande d'une seconde délibération. Elle a le droit, mais pour cela, il faut l'accord du gouvernement. Agnès Buzyn l'a accepté sous les protestations véhémentes de la gauche.
Elle n'était pas satisfaisante compte tenu des circonstances particulières du vote. Elle n'était pas satisfaisante parce que le projet de loi était centré sur l'organisation des soins. Je veux réunir les conditions pour que ce débat légitime ait lieu dans le bon cadre et en assurant l'ensemble des échanges que l'importance du sujet justifie.
Hors sujet, pas suffisamment de débat, donc argument rejeté par l'auteur de l'amendement initial, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Elle évoque entre 3000 et 5000 femmes qui vont à l'étranger pour procéder à un avortement dit hors délai, et elle en profite pour mettre dans le même sac droite et gouvernement.
Ce que vous faites aujourd'hui, droite et gouvernement réunis, n'est qu'une petite combine de procédures mise au point par le groupe LR au Sénat et le gouvernement pour s'opposer à une avancée très attendue sur l'accès à l'IVG.
La loi santé arrivera donc à l'Assemblée sans ce fameux amendement, à moins que des députés ne décident de relancer le débat. Quasi simultanément après le vote, Marlène Schiappa, elle, a envoyé un communiqué. L'allongement raisonnable des délais légaux de l'IVG serait une avancée pour les droits des femmes, explique la secrétaire d'État, pour qui une telle décision doit être prise avec un véritable travail de fond.
À la page politique encore, merci Cyril Graziani. Cette déclaration aux accents de gauche d'Emmanuel Macron devant l'Organisation internationale du travail à Genève. Le chef de l'État reconnaît une erreur de méthode sur les gilets jaunes, sans les nommer, et il dénonce les dérives du capitalisme.
Quand le peuple, quelles qu'en soient les catégories, ne trouve plus sa part de progrès, il ne peut plus adhérer à un régime politique tel qu'il se présente devant lui. C'est ce qui fait que certains sont attirés par l'autoritarisme, qui semble plus efficace pour protéger des menaces venant de l'extérieur, et qui dit « la démocratie ne vous protège plus contre les inégalités de ce capitalisme devenu fou ». Ce sont nos échecs qui alimentent les extrêmes. Le rejet de l'autre, parce qu'il faut toujours un coupable quand les choses se mettent à aller dans le mauvais sens à ce point. Et donc, comme en 19 et en 44, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'orée, si nous n'y prenons pas garde, d'un temps de guerre. Et cette guerre est là dans nos démocraties.
Emmanuel Macron au micro de Jérémy Lange à Genève. Les Républicains toujours en plein chantier. Dernière défection en date, celle de la chef de file des LR à Paris, Florence Berthoux, qui rallie La République En Marche. Elle dénonce le rétrécissement idéologique du parti de droite. Et puis la députée de Loire-Atlantique, Sandrine Josso, elle quitte le groupe LAREM de l'Assemblée. Elle ne trouvait plus, dit-elle, le sens initial de son engagement. Comment boivent et comment fument les collégiens et lycéens? Eh bien, pas exactement comme nous à leurs âges, d'après l'enquête nationale de l'Observatoire des drogues et toxicomanie. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Ils fument moins de cigarettes, mais ils boivent autant d'alcool.
La consommation de tabac est en baisse, ça c'est net. Au collège, l'expérimentation est marginale en 6e, même si elle progresse un peu par la suite. L'usage régulier diminue en 3e. Ils sont 6,5% à fumer, ils étaient plus de 12% en 2014. Globalement, chez les moins de 18 ans, et là on inclut les lycéens, la consommation quotidienne de cigarettes passe de 23 à 17,5%. Le cannabis aussi connaît un palier, sa diffusion démarre plus tardivement, et les consommations régulières restent limitées, autour de 7% des élèves de terminale, alors ça demeure quand même parmi les plus élevés d'Europe. En revanche, boire de l'alcool ne diminue pas avec une expérimentation très tôt. Emmanuel Godot est co-responsable de cette enquête.
Au collège, on a déjà en 6e plus de 4 élèves sur 10 qui se sont déjà initiés à l'alcool. En 6e, on a 11 ans. Ça veut dire que l'initiation à l'alcool, la première fois qu'on rencontre ce produit dans notre pays, elle se fait en famille, lors des fêtes pendant lesquelles il n'y a aucune objection, voire on incite les enfants à essayer de boire. Pour moi, 11 ans, c'est des enfants. Donc ensuite, bien évidemment, au cours du collège, ça continue d'augmenter puisqu'on arrive aux 3/4 des élèves de 3e qui ont déjà essayé de boire. Ensuite, ça continue au lycée. janvier, on est à un quart des élèves de terminale qui nous disent avoir consommé plus de 10 fois dans le mois dernier.
À signaler que alcool et tabac sont toujours aussi faciles à se procurer pour les mineurs, la grosse majorité déclare n'avoir jamais eu à présenter sa pièce d'identité pour vérifier son âge. Et puis dernier renseignement, le vapotage. Lui, il fait une entrée en force chez les moins de 18 ans. Plus de la moitié l'a expérimenté en premier usage, pas pour arrêter de fumer. Alors des études vont être menées pour voir si ça n'entraîne pas une entrée dans la consommation de cigarettes.
L'enquête est à retrouver en détail sur franceinter.fr. Merci Daniel Messager. Tout le plateau dans la même poubelle, gobelet en carton, paille en plastique, papier gras d'emballage, de burger ou de sandwich. 15 chaînes de restauration rapide s'engagent à se mettre en conformité avec leurs obligations de tri des déchets, dont McDo, Burger King, KFC ou encore Domino's Pizza. 70% de leurs restaurants doivent être prêts d'ici la fin de l'année. 9 sur 10 fin 2020, 100% fin 2021. Et le miel que nous consommons, d'où vient-il? Ce n'est pas précisément indiqué sur le pot aujourd'hui, seulement UE ou hors Union. Alors les apiculteurs lancent une pétition pour l'étiquetage obligatoire avec l'origine des miels, les pourcentages selon les pays de provenance, comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne se sont déjà engagés à le faire.
Il est 19h11, Sébastien, un groupe d'ultra-droite démantelé.
Groupe à l'idéologie proche de la mouvance néo-nazie, nous dit-on, 5 personnes sont mises en examen dans cette enquête Corinne Audouin ouverte à Grenoble à la fin de l'année dernière.
Tout commence avec une arrestation en septembre dernier dans une enquête pour détention d'armes illégales. Selon BFM TV qui a révélé l'information, le suspect est un gendarme adjoint volontaire dont le contrat venait de se terminer. Chez lui, on trouve des munitions de Kalachnikov, des produits explosifs, un pistolet et un fusil. Les investigations des enquêteurs grenoblois révèlent un projet d'attentat. Le parquet antiterroriste de Paris reprend l'affaire. Deux sources judiciaires ont précisé que ce projet d'attaque aux contours mal définis visait des lieux de culte juifs ou musulmans. Les suspects qui adhéraient aux thèses de l'ultra-droite avaient nommé leur groupe l'Oiseau Noir. Ils auraient évoqué l'idée de s'en prendre à la convention annuelle du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le CRIF, qui n'était pas au courant de cette enquête, va se constituer partie civile. Depuis 2017, plusieurs groupuscules d'ultra-droite ont été démantelés. Une résurgence qui inquiète les services de lutte antiterroriste, même si leur capacité d'action est jugée limitée.
La police lance un appel à témoins à Lorient pour retrouver le chauffeur qui a renversé deux enfants en voiture dimanche. L'un d'entre eux est mort, l'autre toujours dans un état critique. Le conducteur sans permis et sa passagère, 20 et 21 ans, ont pris la fuite depuis. Un conducteur de trottinette électrique tué à Paris. L'homme de 25 ans a refusé une priorité à un camion hier soir dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital.
Peut-être un début d'explication à la mort du demi-frère de Kim Jong-un.
C'était il y a deux ans, il était assassiné en Malaisie. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Pourquoi est-on en ligne avec vous à Washington ce soir, Grégory? Eh bien parce que, d'après le Wall Street Journal, le frère du leader nord-coréen était un agent de la CIA.
Oui, alors ça n'est pas confirmé par l'agence de renseignement américaine, mais c'est en tout cas ce qu'avance le journal. Il y avait un lien entre Kim Jong-nam, assassiné à Kuala Lumpur en février 2017, et la CIA. Le demi-frère de Kim Jong-un vivait depuis plusieurs années à l'étranger. Il s'était éloigné du régime nord-coréen, et selon le Wall Street Journal, il aurait donc eu à plusieurs reprises des contacts avec des agents américains. C'est d'ailleurs pour cette raison, selon le quotidien, qu'il se trouvait en Malaisie ce jour-là. Il faut se souvenir du contexte, Sébastien. On est en 2017, avant les deux entre Trump et Kim Jong-un. Il est certain que les Américains cherchaient à avoir des renseignements sur le maître de Pyongyang ou sur le régime. Le Wall Street Journal affirme aussi que Kim Jong-nam était sans aucun doute en contact avec d'autres services de renseignement, notamment chinois.
C'est en Malaisie qu'il avait été assassiné, ce demi-frère.
Oui, dans des circonstances rocambolesques, deux jeunes femmes, une vietnamienne et une indonésienne, lui jettent au visage un agent neurotoxique particulièrement mortel alors qu'elles le croisent dans le terminal de l'aéroport de Kuala Lumpur. À l'époque, les États-Unis disent que le régime nord-coréen est responsable de l'assassinat. Les deux jeunes femmes qui ont expliqué avoir été recrutées sans savoir quels produits elles manipulaient ont été toutes les deux libérées il y a quelques semaines, toutes les deux remises en liberté par la justice de Malaisie. Et Pyongyang a jusqu'ici toujours nié une quelconque implication dans l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un.
Grégory Phillips en direct de Washington. Et Donald Trump fait savoir à l'instant qu'il a reçu une lettre magnifique du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qu'il avait rencontré pour la première fois il y a un an à Singapour. Et il dit qu'il continue à faire confiance au leader nord-coréen qui a jusqu'ici tenu parole. En France, le loto du patrimoine s'agrandit. 103 monuments s'ajoutent cette année aux 18 sites qu'on connaissait depuis mars. Bonsoir Jacqueline Pétrose.
Bonsoir.
Et la nouveauté, c'est que certains sont des monuments privés ou soutenus par des associations.
Oui, et c'est une grande nouveauté parce qu'aux côtés des châteaux aux monuments religieux, la liste cette fois est panachée de bâtiments ou de lieux qui ont un passé local ou industriel important. On trouve par exemple la cuivrerie de Cerdon dans l'Ain, l'ancienne gare de Brélidy à Plouec-du-Trieux dans les Côtes-d'Armor, que les amateurs de petits meurtres d'Agatha Christie reconnaîtront, un four industriel à porcelaine par exemple à Limoges, un moulin à vent dans les Alpes ou les façades des maisons de Saint-Pierre en Martinique. Alors on constate donc la diversité de ces lieux urbains comme ruraux, des sites qui ne sont pas protégés au titre de monuments historiques mais qui sont la marque d'une histoire ou le symbole d'une époque et qui méritent donc d'être conservés et sauvés. Ces 103 sites plus les 18 qu'on avait connus donc au mois de mars recevront sans doute un peu plus d'argent qu'au dernier loto, puisqu'ils ne sont qu'une centaine cette fois, au lieu des 232 choisis en 2018. Autre nouveauté, il y a un monument par département, y compris en Outre-mer. Certaines régions se sentiront frustrées, mais le ministre de la Culture souligne que l'argent sera mieux réparti. L'an dernier, quand même, le loto du patrimoine avait rapporté 22 millions d'euros.
Et le tirage de ce loto spécial aura lieu le 14 juillet, Jacqueline Pétrose, merci. La Française des Jeux lancera par ailleurs deux jeux à gratter en septembre, un à 15 € et un autre plus démocratique à 3 €. Le retour à l'équilibre des retraites sera plus long que prévu d'après le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites. Le système reviendrait à l'équilibre en 2042 d'après ce rapport et non en 2036 comme annoncé l'an dernier. La Banque de France abaisse encore sa prévision de croissance. Elle ne table plus que sur une hausse de 1,3% de PIB cette année. Les ménages prennent du temps pour dépenser la forte hausse du pouvoir d'achat. Ils vont essayer de finir la saison sur une victoire et faire oublier leur gifle 2-0. Samedi dernier en Turquie, les Bleus de Didier Deschamps affrontent l'Andorre ce soir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro l'an prochain. Les Bleus de Corinne Diacre ont rendez-vous elle avec la Norvège demain à Nice pour leur deuxième rencontre du Mondial. D'ici là, c'était conférence de presse d'avant-match cet après-midi. La capitaine Amandine Henry aux côtés de Corinne Diacre, la sélectionneuse d'habitude tout en contrôle devant la presse et qui, cette fois, a été très sarcastique, Cédric Guillou.
Interrogé en début de conférence de presse sur son exigence, son intransigeance, Corinne Diacre s'est lâchée.
Ah oui, bah moi l'intransigeance, la rigueur, voilà, ça me caractérise. Mère fouettarde aussi par moments. Beaucoup de choses, d'ailleurs on ne rigole jamais chez nous. Les filles vivent mal. Je pense que c'est difficile à vivre pour elles, très sincèrement. Pas pour moi, mais pour elles c'est très compliqué.
Et la sélectionneuse des Bleus de continuer d'être sarcastique à l'évocation du séjour des Françaises sur la Côte d'Azur.
Pour moi c'est piscine, transat. Et pour mes joueuses, c'est à l'ombre, bien évidemment, puisque comme je suis très rigoureuse, il faut qu'elles restent à l'ombre, qu'elles restent dans leur chambre, enfermées, à double tour.
Et sur la Norvège, l'adversaire des Bleus demain soir.
C'est une équipe qui joue à 11, en maillot, short, chaussettes, normalement rouge. Peut-être qu'elles vont jouer en blanc, je crois, contre nous.
Corinne Diacre a fini sa conférence de presse par ces mots.
L'humour, vous savez, c'est une autre caractéristique de moi. Vous allez apprendre à le découvrir.
Nice, Cédric Guillou, France Inter.
Voilà l'humour un peu curieux de Corinne Diacre. On espère que ça se passera beaucoup mieux demain sur le terrain pour les Bleus qui seront donc opposés à la Norvège. Elles seront peut-être devant leur télé ce soir pour regarder non pas les garçons en Andorre mais les Américaines, trois fois championnes du monde, tenantes du titre et toujours sur le podium en cette édition. Les États-Unis qui sont opposés à la Thaïlande tout à l'heure à Reims. 1 million de billets déjà vendus pour cette Coupe du Monde féminine. Il en reste 300 000 à vos portefeuilles.